VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour et bienvenue, il est 7h en temps universel. Jacques Aristide en direct de la capitale américaine pour vous présenter le monde aujourd'hui en ce jeudi 31 août 2023. L'actualité dominée par le coup d'État au Gabon, les militaires putschistes qui ont destitué le président Ali Bongo ou par de la mise en place d'un régime de transition avec un des leurs nommé à la tête du pays.
Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Président de la transition.
Qui est donc le général Brice Oligui Nguema, le nouvel homme fort de Libreville, son portrait dans un instant. Les réactions sont nombreuses. L'ONU et l'Union africaine condamnent le putsch et appellent les militaires à garantir l'intégrité physique du président déchu et de ses proches. Pour sa part, Washington exhorte l'armée gabonaise à préserver le régime civil. Les militaires, auteurs du putsch au Gabon, ont officiellement nommé hier soir le général Brice Oligui Nguema, président de la transition, après avoir destitué le chef de l'État sortant, Ali Bongo, un événement qui a conduit à des manifestations de liesse dans le pays. Le point avec Ismaël Obiangze, notre correspondant à Libreville.
Oui, c'est le calme qui est de retour à Libreville. On avait peut-être craint hier que les manifestations de liesse issues de ce coup de force n'aillent dans tous les sens. Heureusement que tout a été encadré, tout a été vraiment maîtrisé. Les scènes de liesse n'ont pas conduit à des incidents, mais il faut peut-être rappeler qu'après son coup de force, le comité de la transition et de la restauration des institutions s'est très vite caractérisé par une série de mesures, parmi lesquelles l'arrestation de plusieurs personnes. Elle était proche du président déchu, dont Noureddine Bongo, l'un de ses fils. Alors, l'interpellation d'autres éminentes grises du pouvoir sortant serait aussi en cours. Une opération coup de poing motivée par des allégations de détournement de deniers publics, de haute trahison contre l'État et de trafic de stupéfiants. Bref, j'en passe. Mais je crois qu'en marge de ces arrestations, il y a surtout l'ordre donné de libérer le jeune lieutenant Kelly Kondo-Obiang. Rappelez-vous qu'il est poursuivi depuis plus de 4 ans pour avoir été l'auteur présumé d'un autre coup de force d'une tentative de putsch le 7 janvier 2019 à Libreville. L'ancien commandant adjoint de la garde d'honneur de la garde républicaine a été sorti des geôles de la prison centrale hier à Libreville sur ordre donc des militaires. Alors il faut dire qu'il a regagné sa famille, mais passé l'euphorie populaire issue de ce coup d'état contre Ali Bongo, à peine déclaré élu à l'issue d'un vote qualifié de mascarade par plus d'un observateur local, il reste plusieurs inconnus dans ce dossier, notamment la durée de la transition conduite par le nouvel homme fort du pays, le général Brice Oligui Nguema, et l'équation des délibérations dites tronquées des élections générales du 26 août dernier. Les militaires eux-mêmes l'ont reconnu sans dire comment ils entendent résoudre le problème avec l'opposition politique prise de court par leur intervention.
Quelques heures après le coup d'État, les militaires putschistes ont donc placé à leur tête le général Brice Oligui Nguema. Qui est cet homme? Quelques éléments de réponse avec John Linden.
Brandissant son béret vert de la garde des républicaines, porté en triomphe par ses hommes de cette unité d'élite, le général Brice Oligui Nguema, nouvel homme fort du Gabon, a été désigné mercredi président de la transition par les putschistes. Cet homme de 48 ans, à la carrure athlétique et au crâne chauve, que l'on dit aussi discret que secret, n'est pas apparu dans les 3 premiers communiqués qu'il a laissé lire par des colonels et lieutenants-colonels à l'antenne de la télévision d'État, y compris celui qui l'intronise président de transition à la tête du comité pour la transition et la restauration des institutions. Populaire dans son pays, le général Brice Oligui Nguema a gagné ses galons en tant qu'aide de camp d'Omar Bongo Ondimba, père d'Ali Bongo, qui avait dirigé le pays pendant près de 41 ans jusqu'en 2009. Respecté et charismatique selon ses proches, cet ancien attaché militaire des ambassades du Gabon au Maroc et au Sénégal était à la tête de la plus puissante unité de l'armée depuis 2019. Après avoir mis à la retraite Ali Bongo, le général Brice Oligui Nguema, par ailleurs réputé francophile, n'a pas fixé des durées pour une transition avant le retour des civils au pouvoir, laissant ainsi planer le doute sur ses intentions.
Les réactions internationales à ce nouveau coup d'État dans un pays d'Afrique francophone n'ont pas tardé, dont celle des États-Unis. Washington appelle l'armée gabonaise à préserver le régime civil, tout en exprimant son inquiétude après la destitution du président Bongo. Nous exhortons les responsables à libérer les membres du gouvernement et leurs familles, à assurer leur sécurité et à préserver le régime civil, déclare Matthew Miller, le porte-parole du département d'État américain dans un communiqué émis hier soir. Un résumé des autres déclarations faites ailleurs dans le monde avec Claire Morin-Gibourg.
Le secrétaire général de l'ONU a condamné fermement la tentative de coup d'État, a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric, appelant tous les acteurs à la retenue et au dialogue. Antonio Guterres a fait part de sa grande inquiétude, appelant les forces de sécurité à garantir l'intégrité physique du président de la République et de sa famille. Le président renversé, Ali Bongo, est apparu dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux où il a appelé en anglais tous ses amis dans le monde à, je cite, « faire du bruit ». L'Union africaine et l'Union européenne ont également condamné le putsch. La Chine a appelé à garantir la sécurité d'Ali Bongo. La Russie a fait part de sa profonde préoccupation, tandis que la France, ex-puissance coloniale, a condamné le coup d'État militaire. Condamnation également de l'Allemagne, qui a toutefois évoqué des critiques légitimes sur la transparence des élections.
Le Royaume-Uni condamne également la prise de pouvoir militaire anticonstitutionnelle au Gabon et appelle à la restauration d'un gouvernement constitutionnel. Nous reconnaissons les inquiétudes soulevées par le récent processus électoral, déclare le ministère britannique des Affaires étrangères. Pour un nombre d'observateurs, le Gabon présentait des signes avant-coureurs d'un tel coup de force. Un certain malaise prévalait au sein même du parti au pouvoir depuis l'élection en 2009 Ali Bongo, qui a ainsi succédé à son père Omar Bongo, président de longue date. C'est l'analyse de Serge Boyka-Tahrir, journaliste à Kinshasa.
On ne pouvait peut-être pas s'attendre à un tel scénario, mais nous sommes sans ignorer que la crise au Gabon d'Ali Bongo remonte dès son élection, ou presque en 2009, engendrant mécontentement et murmure de certains membres du clan Bongo, et surtout au sein du parti démocratique gabonais. Malaise concrétisé par le départ de poids lourd dont Jean Ping, d'où les élections contestées par l'opposition en 2016, avec les violences qui s'en étaient suivies et de pertes en vies humaines. En 2019, la santé du président Bongo chancelante à la suite de l'AVC et son long séjour hospitalier ont mis à mal le régime avec son désir de conserver à tout prix le pouvoir, notamment par des mesures non constitutionnelles de transfert de pouvoir au Premier ministre et au vice-président alors que la Cour constitutionnelle devait normalement constater la vacance du pouvoir. D'où le putsch avorté du mouvement patriotique de jeunes de force des défenses et des sécurités du Gabon à cet effet. Affaibli par la récession et la chute du cours d'ouvrage du pétrole, le régime a fait fi de la grogne sociale, voulant à tout prix sauvegarder ses avantages, notamment avec la nomination d'abord en 2019 de Nourdine Valentin Bongo comme coordonnateur général des affaires présidentielles, mais aussi cette année avec la modification du code électoral en plein processus électoral, méprisant les revendications de l'opposition et de la société civile. Ici, je fais mention du régime de recours de l'opposition par la Cour constitutionnelle concernant la dite modification du code électoral sous prétexte, je cite, qu'une loi promulguée ne peut être révisitée. D'où ces scénarios, juste après la publication des résultats contestés déjà de l'entame du processus par l'opposition, scénario certes inattendu, mais vraisemblablement accompagné par l'opposition, par la population qui en avait ras-le-bol d'un régime vieux de plus de 50 ans.
Serge Boyka-Tahrir, journaliste en République démocratique du Congo, joint par Nathalie Barge. Le coup d'État a déjà affecté les intérêts économiques de la France au Gabon. Le point avec Rosine Mounezero.
Selon le président du Conseil français des investisseurs en Afrique, Étienne Giros, à peu près 80 entreprises françaises, celles que l'on connaît bien, sont répertoriées au Gabon. À cela, il faut ajouter des petites et moyennes entreprises, artisans, restaurants, cabinets d'avocats, d'assurances, services financiers, qui se chiffrent en plusieurs dizaines. Parmi les plus grands groupes français présents au Gabon, le groupe minier Eramet a dans un premier temps suspendu ses activités d'extraction et de transport ferroviaire. Mais la société a annoncé le redémarrage du transport ferroviaire dès mercredi soir et celui de la production de manganèse jeudi. Également présente, Total Energy est installée depuis 1928 dans ce pays qui est le quatrième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne. Le géant français se dit mobilisé pour assurer la sécurité de ses salariés et de ses opérations. Il est beaucoup trop tôt pour dire comment la situation va affecter les entreprises françaises, souligne M. Giros, ajoutant que celle-ci tente d'évaluer prioritairement la sécurité du personnel et le risque de blocage des expatriés et la protection de leurs biens. Le Gabon est le deuxième producteur mondial de manganèse, la Comilog, la compagnie minière de Logoué, dans l'extraction de manganèse, et Cetrag, la société d'exploitation de Transgabonais, dans l'exploitation ferroviaire, emploie 8700 personnes dans le pays, majoritairement des Gabonais.
Voilà ce que nous pouvons dire ce matin sur le coup d'État au Gabon. Ailleurs dans l'actualité, en Afrique du Sud, au moins 52 personnes sont mortes et 43 ont été blessées dans un incendie qui a dévasté un immeuble de 5 étages à Johannesburg ce matin. Les pompiers ont éteint le feu et recherché d'autres éventuelles victimes. La cause du drame n'était pas encore connue. Ici aux États-Unis, la Floride connaît de vastes inondations après le passage de l'ouragan Idalia, désormais tempête tropicale, qui a arraché arbres et lignes électriques sur son sillage et balayer la Géorgie. Voilà pour le journal. Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité sportive, concocté par Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
L'Afrique n'aura aucun représentant au deuxième tour du mondial de basketball.
Oui, après l'élimination de l'Égypte et de l'Angola, les espoirs du continent reposaient sur le Soudan du Sud, le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire. Tous ont perdu. Le Soudan du Sud est tombé devant la Serbie 115-83, deux jours après sa première victoire historique en Coupe du Monde face à la Chine, 89-69. Défaite aussi pour le Cap-Vert 77-92 face à la Slovénie. La Côte d'Ivoire a aussi perdu son dernier match, 77-89, devant le Brésil. Tous ont fini troisième de leur groupe, alors que seuls les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le tour suivant. En match de classement ce jeudi, l'Angola fait face à la Chine, le Soudan du Sud défie les Philippines. À suivre aussi Égypte-Jordanie, Cap-Vert-Finlande et Côte d'Ivoire-Liban. L'équipe africaine la mieux classée dans cette Coupe du Monde arrachera son ticket pour les Jeux Olympiques de l'an prochain à Paris.
Football, Giovanni Reina absent de la liste de la sélection américaine.
L'attaquant du Borussia Dortmund ne figure pas dans la liste des joueurs retenus par le sélectionneur du Team USA, Greg Berhalter. Pour son retour à la tête de la sélection, Reina et Berhalter avait été au centre d'une violente polémique lors de la Coupe du Monde au Qatar fin 2022. Le sélectionneur n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à la fin de l'année dernière sur fond d'une affaire de violence conjugale remontant en 1991. Les parents de Reina, mécontents du faible temps de jeu de leur fils au Qatar, avaient eux-mêmes alerté la Fédération américaine sur une dispute survenue en 1991, durant laquelle Berhalter avait donné un coup de pied à sa future femme, Rosaline. Les États-Unis vont jouer deux matchs amicaux contre l'Ouzbékistan le 9 septembre à Saint-Louis, dans le Missouri, puis contre Oman trois jours plus tard à Saint-Paul, dans le Minnesota.
Nous parlons de tennis à présent avec les nouvelles de l'US Open.
Novak Djokovic n'a mis que deux heures pour surmonter des conditions climatiques étouffantes et boucler son match contre l'Espagnol Bernabé Zapata, 76e mondial, 6-4, 6-1, 6-1. La troisième journée du tournoi a aussi été marquée par l'élimination prématurée de Stefanos Tsitsipas, 7e mondial. Le Grec, qui n'a jamais dépassé le troisième tour à Flushing Meadows à New York, a craqué face au Suisse Dominique Stricker, qui s'est imposé 7-5, 6-7, 6-7, 7-6, 6-3, après un marathon de 4h04. De son côté, Dominique Thiem, manifestement souffrant, a été contraint à l'abandon au deuxième tour de l'US Open, alors qu'il était mené 7-6, 1-0 par l'Américain Ben Shelton. Dans le tableau féminin, la tenante du titre, Iga Swiatek, n'a pas été aussi dominatrice face à la 322e mondiale d'Aria Savi. La numéro 1 mondiale a mis 1h34 pour s'imposer 6-3-6-4. Ça n'a pas été facile, le rythme du match a été bizarre. Mais je suis heureuse d'avoir réussi à rester agressive et de passer au troisième tour, a reconnu la Polonaise. Et puis Elena Rybakina, 4e mondiale, s'est qualifiée sans jouer pour le troisième tour en bénéficiant du forfait de son adversaire australienne, Adla Tomjanovic, peu avant le début de leur match.
Merci Yacouba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Il est l'heure maintenant de passer à la Tranche Magazine. En République démocratique du Congo, au moins 10 personnes ont été tuées à Goma hier lors d'une manifestation contre la MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays, aussi bien que contre la force régionale de la Communauté des États d'Afrique de l'Est. La protestation, tenue à l'appel d'une secte qui a pour nom Wazalendo et qui regroupe d'anciens miliciens, a été réprimée par l'armée avant qu'elle ne débute dans cette région en proie à des violences. Pour en savoir davantage, Eddie Sango a joint Thomas Dakin Mouiti Luanda, un défenseur des droits de l'homme basé dans la capitale du Nord Kivu.
Depuis plus d'une semaine, une association qui s'appelle l'Association culturelle de Wazalendo qui a annoncé une manifestation contre la présence de la MONUSCO en RDC, mais aussi la lutte contre la présence du M23 sur le sol congolais, et qui s'est dit combattre à partir d'esprits sains et même des ancêtres pour mettre fin à la criminalité, mettre fin au calvaire que traverse la population congolaise. Et pour ça, il fallait organiser une manifestation pacifique jusqu'à la base de la MONUSCO, qui devait partir, puisqu'il considérait que la base de la MONUSCO constituait le lieu sacré où il devait offrir des sacrifices à Dieu et aux ancêtres.
Qu'est-ce que vous avez comme bilan et qu'est-ce qui explique autant de morts dans ces événements qui étaient annoncés?
Il y a eu 7 personnes qui ont été tuées au niveau de la radio, puisque cette structure avait déjà érigé une radio-télévision. Les personnes, semble-t-il, selon les informations en notre possession, n'ont pas accepté de quitter. Et c'est comme ça qu'ils ont tiré à bout portant sur les personnes qui étaient à la radio.
Qu'est-ce qui a tiré?
Ce sont les agents de l'ordre, selon les informations en notre possession. Et on a tiré à bout portant sur les 7 personnes, dont une fille et une jeune dame journaliste. Comme ils avaient un site, un endroit où ils appelaient une église, c'est comme si les agents de l'ordre se sont rendus sur le lieu. Il y a eu encore une fois échange. Selon les informations des autorités, on parle de ces Wazalendo qui étaient armés, mais jusque-là, ça reste à vérifier. Ils ont l'habitude de marcher avec des bâtons. Est-ce que ce sont ces bâtons qui ont été considérés comme des armes? Nous ne savons pas jusque-là. Et il semblerait qu'au même endroit, il y a eu également mort d'homme et les a été mis à feu.
Vous avez parlé des Wazalendo, un nom qui rappelle plutôt les réservistes qui s'est présenté pour combattre aux côtés de l'armée contre les M23. Mais quel lien y a-t-il entre ces Wazalendo-là et la secte dont vous parlez?
Pour ce qui concerne ces gens ici, la secte Wazalendo, ce n'était pas... D'ailleurs, il y avait déjà des contradictions entre les détenteurs d'armes et ceux qui sont dans cette secte armée. Il y avait des contradictions, ils ne parlaient pas le même langage. Ce sont des citoyens ordinaires qui ont commencé sous forme d'une église. Et à l'intérieur de l'église, on n'a jamais entendu parler d'armes ni de munitions, puisque ce n'est pas leur première activité de descente dans la rue.
On écoutait Thomas Dakin Mouiti Luanda, un défenseur des droits de l'homme à Goma.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Avant la crise sécuritaire de 2013 en République centrafricaine, les minéraux étaient la troisième source de revenus de l'État après l'agriculture et la sylviculture. Déjà à cette époque, au moins 30% des diamants quittaient illégalement le pays. Nathalie Barge a demandé à la députée centrafricaine Béatrice Epaé, ancienne ministre du Commerce et de l'Industrie, que faire pour que ces ressources profitent à la population.
Il faut d'abord que la paix revienne. Il faut que la sécurité revienne dans le pays. Si nous sommes dans cette condition, il faut qu'on fasse des réformes au niveau gouvernemental. Et nous, les députés, nous sommes là pour voter les lois, pour faire les réformes. Et on a un code minier, mais ce code minier doit faire partie des autres codes sectoriels rattachés au code foncier. Il faut actualiser ce code minier et rendre le code minier rentable pour la RCA, à l'instar des autres pays comme le Botswana, etc., puisque nous avons beaucoup de minerais, nous avons beaucoup de ressources. Comment les autres font pour capter des ressources à travers leurs ressources naturelles? Les conditions sont difficiles, mais il faut qu'on fasse l'effort d'aller vers la paix, la réconciliation de notre pays et voir l'essentiel pour notre peuple.
Béatrice Epaille, vous êtes membre du Parlement de la CEMAC. Parlez-nous de votre travail et de son impact sur la région au plan économique. Quels sont les principaux défis de la région d'Afrique centrale?
Nous avons une union douanière. Ce qui bloque encore, c'est la libre circulation. Et je crois que les chefs d'État s'y attellent en ce moment. Et puis, il y a eu déjà un texte sur la libre circulation. Il faut juste une volonté politique pour que les choses aillent mieux. Et si ensemble, nous pouvons déjà commencer à échanger entre nous, nous pouvons faire développer notre économie. Il faut qu'on transforme, que chaque État membre soit un pôle pour telle ou telle activité et on va travailler en complémentarité au point de vue économique. Mais sinon, nous avons des institutions spécialisées qui gèrent la monnaie, qui gèrent le développement, la douane, l'agriculture, la santé, etc. Et avec une monnaie commune, nous arrivons à être comme les autres dans les autres sous-régions. Il y a la BEAC, la Banque centrale, la Cour de justice, la Cour des comptes, nous avons des écoles, l'école inter-État de douane, etc. Mais il reste la participation aussi des États. Nous avons la taxe communautaire d'intégration où les États doivent prélever au niveau douanier pour financer l'intégration, telles que les infrastructures. On ne peut pas imaginer que pour aller à Brazzaville, par exemple, on doit quitter Bangui, aller au Togo, aller à Casablanca et passer toute une journée ou deux jours et tout ça, ça doit être réglé. Et si on règle tout ça, on peut développer le commerce intra-CEMAC. Mais aujourd'hui, si je prends le cas du bois, on exporte le bois brut sans valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça peut nous rapporter? Le diamant, par exemple, on ne transforme pas, on ne taille pas les diamants, on envoie les diamants bruts.
Béatrice Epaille, députée centrafricaine et membre du Parlement de la CEMAC, était jointe à Bangui.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
L'ambassadeur français est toujours en poste à Niamey, malgré un ultimatum des militaires qui se sont emparés du pouvoir au Niger le 26 juillet dernier. La tension est montée d'un cran vendredi dernier, quand la junte a donné 48 heures à Sylvain Itté pour quitter le territoire. Ce délai a déjà expiré. Paris rejette cette demande de départ en affirmant que le nouveau gouvernement nigérien est illégitime et n'a aucune autorité pour fonder une telle requête. Pour une analyse, Mohamedou Oumfa a joint Paul Yombo, expert en diplomatie et en relations internationales. Il est à Yaoundé, au Cameroun.
Il y a trois dimensions qui peuvent nous éclairer sur la situation présente. La première chose, c'est que la Convention de Vienne de 61 accorde aux diplomates, à l'agent diplomatique, l'immunité diplomatique. Et l'immunité diplomatique confère à son détenteur la protection de la loi criminel domestique du pays, c'est-à-dire que la personne du diplomate ne peut pas être incriminée ou arrêtée en principe. Et donc, en vertu du concept d'extraterritorialité, qui est aujourd'hui appliqué plutôt de manière large que stricto sensu, les prémices d'une ambassade ne peuvent pas être pénétrées sans l'autorisation de l'ambassadeur ou La troisième dimension, c'est bien sûr que les diplomates ont une protection, la protection de leurs biens. Ils ne peuvent pas être taxés ou imposés et sont donc, à l'abri du fait de payer les impôts et les taxes du pays hôte.
Alors, Paul Yombo, vous venez donc de dresser le cadre légal qui permet à l'ambassadeur de France d'être au Niger. Maintenant, la situation sur le terrain impose une autre analyse. Il y a des poutistes qui sont au pouvoir à Niamey et qui ont demandé à l'ambassadeur de quitter le pays. Et quelle analyse vous faites de cette situation et que pensez-vous de cette sanction?
Eh bien, si on peut ergoter sur la légitimité du régime aujourd'hui présent à Niamey, l'aspect définitif, c'est qu'ils ont le pouvoir de facto. Et en tant que détenteur de facto du pouvoir au Niger, il est extrêmement difficile pour la France de faire le bras de fer avec les autorités nigériennes au Niger. Donc c'est une situation qui ne relève pas tellement d'enjeux spécifiques, mais plus des questions symboliques. La France qui a déjà été chassée du Burkina Faso, qui a déjà été expulsée au Mali, dont les forces Barkhane et les arbres ont déjà été expulsés de cette zone-là, veut quelque part garder une présence sur cet espace de l'Afrique pour symboliquement marquer ce qu'on appelle sa profondeur géostratégique.
Alors, Paul Yombo, quelles seraient les conséquences si l'ambassadeur de France décide tout de même de rester sur le territoire? Le président Emmanuel Macron a dit que l'ambassadeur ne quitterait pas le territoire nigérien. Quelles seraient les conséquences d'un point de vue politique et diplomatique et sur le travail de l'ambassadeur et de l'ambassade de manière générale?
Ce qu'il faut dire, c'est que l'expulsion de l'ambassadeur et des diplomates qui travaillent à la mission française au Niger peut s'assimiler à une rupture des relations diplomatiques. Mais pour qu'une rupture des relations diplomatiques, il faut non seulement que l'une des deux parties dénonce l'accord du siège qui a créé l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Cet acte n'a pas encore été posé formellement, mais du point de vue matériel et opérationnel, il est difficile que ces deux puissances-là, ces deux pays, continuent à entretenir des relations.
On écoutait Paul Yombo, enseignant-chercheur à l'Université protestante d'Afrique centrale au Cameroun. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko est en grève de la faim depuis maintenant un mois. L'état du candidat déclaré à la présidentielle de 2024 est qualifié de très grave par ses avocats et par les membres de sa coalition politique. Des déclarations qui sont toutefois battues en brèche par la mouvance présidentielle. Le point complet avec Sédina Bagueille, notre correspondant à Dakar.
Après 30 jours de diète, la situation d'Ousmane Sonko inquiète ses collaborateurs. L'heure est grave, d'après Habib Sy, président de la conférence des leaders de la coalition Yehu Askanvi, qui lui a rendu visite récemment.
Il se porte très mal. Il est dans une situation très critique. Nous y étions partis pour lui délivrer le message du Fallait général des Mourides et lui apporter les dates qu'il lui a offertes, en lui recommandant d'arrêter sa grève de la faim. Nous n'avons pu ni lui transmettre le message, ni lui faire manger les dates, parce qu'il était presque dans un état second.
Cette situation critique décrite par Habib Sy, le régime n'y croit pas. D'après Pape Maël Diop, responsable au sein de la mouvance présidentielle, la situation politique d'Ousmane Sonko est plus dramatique que sa situation sanitaire.
C'est de la manipulation. Et puis, ce qui est dommage, je peux comprendre que les membres de PASTEF, ceux qui occupent des postes de responsabilité, se déplacent. Ousmane Sonko n'a pas de soutien. C'est des soutiens à travers la presse, c'est des soutiens à travers des chaînes de télévision, et c'est lié à ça. Et je vous dis qu'ils ont intérêt aujourd'hui à ce que M. Ousmane Sonko ne soit plus dans le circuit politique. Il les dérange, ils n'osent pas le dire, et ils comptent tirer profit de l'électorat d'Ousmane Sonko en disant que nous avons été présents pour le soutenir.
La coalition d'opposition Yehu Askanvi, dont fait partie Ousmane Sonko, dénonce le mutisme de la communauté internationale. Pour Habib Sy, la libération d'Ousmane Sonko est essentiel pour le Sénégal.
Ce qu'il faut accepter, c'est qu'une grande partie de la stabilité politique du Sénégal repose sur Ousmane Sonko. On ne doit pas le traiter de n'importe quelle façon. J'ai l'habitude de dire que la stabilité, la paix du pays sont au-dessus de la Constitution, des lois et règlements. Par voie de conséquence, vu ce qu'il représente, on ne peut pas lui réserver un traitement de droit commun. Il faut que l'État réfléchisse sur les possibilités le plus rapidement possible de les libérer dans les meilleurs délais.
Pour le pouvoir, la démarche prise par Ousmane Sonko est un choix de lutte qui ne saurait remettre en cause la viabilité de la démocratie sénégalaise.
Pape Maël Diop est responsable au sein de la mouvance présidentielle.
Et il ne faudrait pas aussi que nous soyons divertis en parlant de démocratie. La démocratie n'a rien à voir avec la grève de la faim. Ce n'est pas l'État qui a imposé cette grève de la faim. Ce n'est pas aujourd'hui une décision de justice prise pour dire qu'il faut quand même qu'il engage une grève de la faim. Il l'a fait volontairement. Et je pense qu'il y a d'autres formes de lutte qui peuvent permettre à M. Sonko de s'en sortir.
Arrêté et placé en détention depuis le 28 juillet 2023, Ousmane Sonko observe une grève de la faim qui l'affaiblit de jour en jour d'après ses proches. Céline Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
Le Monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. Kelvin Fowler a assuré la partie technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente journée de jeudi, dernier jour du mois d'août 2023. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.